Henri de Régnier, La double maîtresse, deuxième partie, chapitre 8. Quand Mademoiselle d'Amberville fut bien et dûment écrouée au fort l'évêque et que Monsieur de Portebise fut rentré chez lui, il éprouva un peu de désœuvrement et quelque dépit. En fin de compte, il se trouvait joué. Mais le jeu ne lui avait certes pas déplu, et quoique les cartes en eussent été arrangées, la partie n'en avait pas été moins agréable. Il se voyait le héros d'une bruyante galanterie, et si, à ses yeux et pour lui, les causes ne lui en semblaient pas toutes à son avantage, la chose n'en gardait pas moins, à la vue de tous, une fort belle apparence. On en parlait en tout lieu, et la semaine de M. de Portebise était en train de devenir proverbiale. M. de Portebise était à la mode et il en ressentait quelque vanité. M. de Gurcy, qui avait juré sa perte, ne se montrait pas, occupé à gémir et à tempêter à la porte du fort l'évêque. M. de Portebise attendait, pour se faire voir en public, la représentation des égarements champêtres dont le jour approchait. Cette pensée le ramena au souvenir de la petite Fanchon et il se résolut à aller rendre visite à l'abbé Hubertet. Lorsque, arrivé au haut de la rue Saint-Jacques, il eut mis pied à terre, il traversa la cour humide et monta l'escalier obscur. Le masque antique aux joues de vermillon riait de plus belle sur la porte du vieil antiquaire. Monsieur de Portebise la poussa. Mademoiselle Fanchon était assise au milieu de la pièce, sur une chaise à dossier haut. Elle avait le coude au genou et le menton dans ses mains et paraissait fort occupée à regarder devant elle. Ses yeux allaient des débris de sculptures poudreuses qui encombraient le plancher aux livres par rangées qui garnissaient les murs. Elle paraissait mélancolique. À un léger bruit que fit M. de Portebise, elle tourna vers lui son joli visage où ses beaux yeux semblaient avoir pleuré. En l'apercevant, elle poussa un petit cri et se leva, les mains croisées sur sa poitrine. Mademoiselle Fanchon était en jupon et en corset, ce qui contrastait avec sa coiffure, où la poudre se mêlait à des feuillages. Ses joues étaient délicatement fardées. Deux ronds roses en marquaient les pommettes. Sa bouche vive complétait la grâce charmante de sa figure. « Ah, monsieur, c'est vous ! Que m'avez-vous donc fait peur ? Et monsieur Hubertet qui n'est encore pas là ? Nanette ne vous a donc rien dit en bas ?»« Nanette ne m'a rien dit, mademoiselle, et je ne le regrette point puisque vous voilà. Mais je dirai à monsieur Hubertet ce que vous faites en son absence. Vous avez pleuré, Fanchon. » Et monsieur de Portebise désignait du doigt deux petites larmes rondes qui collaient furtivement sur les joues de la jeune fille. « Ne lui en dites rien, monsieur, je vous en prie, cela le peinerait. » Et elle s'essuyait les yeux. « Qu'y a-t-il donc qui vous chagrine, jolie Fanchon ?»«
C'est de quitter monsieur l'abbé. »
« Quitter l'abbé ? Et pourquoi donc le quittez-vous ? » ?»«
Il faut tout vous dire, monsieur. Ce matin, il m'a prise sur ses genoux. « Fanchon, m'a-t-il dit doucement, voilà qui est bien. Tu es une bonne fille et je t'aime beaucoup. Mais il faut nous séparer. Que veux-tu ? Je ne puis pourtant pas, malgré mon âge, vivre avec un premier sujet de l'opéra. Maintenant, on va s'occuper de toi. Ton nom sera dans les gazettes. Tu vois d'ici le bel effet ? Et où habite cette demoiselle Fanchon ?
Mais avec monsieur l'abbé Hubertet.
Oui, bien. C'est elle qui danse les égarements champêtres.
Ah, vraiment ? Tu comprends cela, Fanchon ?
Alors, j'ai pleuré, et il pleurait aussi. Et comme je lui offrais de renoncer à mon rôle, de rester tant qu'il voudrait une petite danseuse de rien, à qui personne ne ferait attention, il riait, et il disait « Renoncer à ton rôle, Fanchon, tu n'y penses pas, un rôle pour lequel Mademoiselle d'Amberville est en prison. » Et il ajoutait mille choses tendres qui nous faisaient pleurer davantage.
Mademoiselle Fanchon avait oublié en parlant qu'elle était en corset et en jupon. Son corset serrait sa taille fine et laissait voir sa gorge que l'émotion faisait palpiter.
« Et ce bon monsieur Hubertet qui a pensé à tout. Il m'a loué un petit appartement dans le voisinage du théâtre, juste dans la maison de monsieur d'Arledel, mon maître à danser. J'y habiterai avec la tante de cette Nanette que vous avez vue et qui fera mon service. Sa tante est pauvre et pieuse, et l'abbé viendra dîner trois fois la semaine. Voilà qui est parfait, mademoiselle Fanchon, et il n'y a point là de quoi pleurer. Mais que va devenir monsieur Hubertet ? Qui époussettera ses livres et ses médailles ? Et puis, voyez-vous, monsieur, j'étais heureuse, et tout ce changement m'effraie un peu. Hier, je ne voulais plus aller répéter, et c'est monsieur l'abbé qui m'y a conduite. Monsieur Hubertet s'entend fort bien en danse. Ah, que j'étais donc troublée. Mais, quand je l'ai vu assis sur la scène, où on lui avait apporté une chaise, je me suis trouvée tout à l'aise. Je dansais. Je le voyais rire de satisfaction, se pencher en avant, les mains aux genoux, se rejeter brusquement en arrière. Il me faisait des signes. Je me sentais plus légère et plus adroite, et quand j'eus fini, je me suis jetée à son cou. Toutes ces demoiselles m'ont imitée et tout le monde l'a embrassée. Il se débattait à force. C'était une véritable bagarre, mais on s'acharnait contre lui. L'une le tirait par son collet, l'autre par sa manche, si bien qu'à la fin, ce pauvre monsieur Hubertet était tout blanc de poudre et qu'il fallait le voir, rajustant sa perruque et redressant son rabat, rouge d'embarras, mais riant tout de même. Et Fanchon, à ce souvenir, riait aussi à grands éclats. Ses lèvres fraîches montraient ses dents blanches. La gaieté gonflait son cou souple et les pampres flexibles de sa coiffure s'agitaient comme au vent. Puis elle redevint sérieuse. Elle parut réfléchir. « Ce qui me fâche, monsieur, je vais vous le dire, » continua Fanchon en baissant la tête avec une moue. « C'est moins encore de quitter monsieur l'abbé que de penser que je lui doive tant sans avoir aucun moyen de m'acquitter envers lui. Je voudrais tant lui faire plaisir. On dit que je suis jolie et que les hommes aiment fort la jeunesse et la première fleur des filles. Ah, que je regrette donc que monsieur l'abbé soit d'un âge à ne plus pouvoir profiter de ce que je lui donnerais si volontiers. Ah, pourquoi la nature, en le faisant si vieux, m'a-t-elle enlevé l'unique moyen qui m'eût permis de ne point rester ingrate envers lui ? Mais je déraisonne, monsieur. Excusez ma simplicité. » Monsieur de Portebise, en écoutant mademoiselle Fanchon, regrettait maintenant de n'avoir point, au lieu de monsieur l'abbé Hubertet, mérité sa reconnaissance. À la façon dont elle entendait récompenser les bienfaits, monsieur de Portebise eût aimé lui avoir rendu quelques services. Il la trouvait charmante, tout animée encore de son récit. « Prenez garde, mademoiselle, de vous troubler l'esprit et de vous gâter le visage. Les pleurs et les soucis ne valent rien à la beauté. Il y a de meilleurs sujets à vos pensées. Songez que le public n'attend pas de vous des soupirs et des yeux battus. Il faut pour lui plaire un air de contentement où il prenne le sien. La nature vous a donné une grâce charmante à qui l'art ajoute ses attraits. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour triompher. Il me semble entendre déjà s'accorder les violons. Ah, mademoiselle, je me réjouis donc de vous voir en ces égarements champêtres. Vous allez paraître demain. J'imagine la lumière, la musique et toutes les mains levées pour vous applaudir. » À mesure que monsieur de Portebise parlait, le visage de mademoiselle Fanchon semblait suivre ses paroles. Ses petits pieds trépignaient. Elle recula à pas légers vers le fond de la chambre. Mademoiselle Fanchon dansait. Elle obéissait à un rythme muet qui guidait ses mouvements. Elle exécuta d'abord un pas gracieux, comme si elle allait au-devant de quelqu'un. Entre deux doigts, elle pinçait délicatement son jupon et le relevait sur ses jambes agiles. Puis, elle se rejetait en arrière avec surprise. Elle hésitait, elle avançait avec une coquette lenteur pour écouter timidement l'aveu d'un berger invisible dont ses gestes semblaient modérer l'ardeur. Son corps souple accomplissait en mesure mille choses charmantes. Elle feignait de cueillir une fleur, de traire ses brebis, de remplir une corbeille, de puiser de l'eau. Elle était tour à tour curieuse, attentive, volage et passionnée. Quand elle s'arrêtait, on l'entendait respirer. Puis elle repartait, remplissait toute la chambre du tourbillonnement de sa légèreté. Ses pas effleuraient le plancher, ou parfois le frappaient du talon d'un bruit sec. Puis, tout à coup, elle cessa net, avec une révérence qui la courba finement, fit lever son jupon court, présenta dans le linge du corset sa gorge émue et inclina les grands feuillages pamprés qui coiffaient sa tête souriante, où le fard posait aux pommettes sa rougeur et dessinait la forme malicieuse de ses lèvres fraîches. Et monsieur de Portebise, amusé et ravi, applaudissait pour tout de bon la jolie danseuse, essoufflée et confuse, sans penser à la situation bizarre où il se trouvait d'assister, parmi des livres et des médailles, à l'avant-goût d'un exercice d'opéra, chez le docte abbé Hubertet, membre de l'Académie des inscriptions de Paris et de celle des arcades de Rome.